Radio Kapi.
À la une, 5 villages de Rutshuru dans le Nord Kivu, vidés de leurs habitants, c'est après l'occupation depuis ce matin de Kanombe par des présumés M23, information rapportée par plusieurs sources sur place. Plénière agitée hier à Guémena, les députés provinciaux ont voté une motion pour exiger le départ du directeur provincial de l'EPST Sud-Ubangi 1. Il accuse de détournement d'environ 30 000 dollars alloués par l'UNICEF en 2018, accusation rejetée en bloc par le concerné. Et puis, l'invité de ce soir, le docteur Paulin Kaloumé, gynécologue obstétricien à l'hôpital général de référence de Kindu. Après une formation financée par UNFPA à Pandi, son équipe de 5 personnes assure localement la réparation des fistules obstétricales. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu. Plusieurs localités occupées depuis ce mercredi matin par les présumés rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. C'est notamment Kibumba dans le Nyiragongo et la zone de Kanombe dans le Rutshuru. C'est après des violents combats ayant suivi des attaques simultanées des M23 contre les positions des FARDC dans les deux territoires. La circulation routière sur la nationale numéro 2, Goma-Rutshuru, reste coupée au niveau de Kibumba. Récit des faits avec Bernard Denyangi.
Dans le territoire de Rutshuru, les villages Kanombe, Nyinyesi, Kabaya, Rumangabo, Kokwe, dans le groupement de Kisigari, sont actuellement vidés de leurs habitants qui ont pris la direction de Rutshuru Centre et Kiwanja. C'est après une occupation de Kanombe par des présumés M23 et depuis 9h locales ce mercredi, informent plusieurs sources civiles. Les mêmes rebelles ont aussi attaqué depuis 3h du matin à l'FRDC sur les collines Chanzu et Runyoni dans le groupement de Jomba. Les habitants de Bunagana affirment que les détonations des artilleries lourdes sont encore perceptibles dans la zone jusqu'en milieu de la journée. Et sur le front sud, en territoire de Nyiragongo, Kibumba Bumba Kigarama serait déjà entièrement occupé par les rebelles depuis qu'ils ont attaqué les FRDC dans la zone autour de 6h du matin ce mercredi. Les autorités militaires qui affirment être en pleine opération n'ont pas encore communiqué sur la situation qui prévaut. Ce matin, le gouverneur général Constant Dima a rassemblé les troupes mixtes et FARDC-PNC pour une causerie morale pour la sécurité de la ville de Goma, menacée par la progression des rebelles. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Des réactions à ces affrontements FARDC M23 dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Le gouverneur du Nord Kivu saisit le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Ceci pour les investigations sur l'origine de ces incidents. Cette annonce est contenue dans un communiqué publié ce mercredi par les FARDC. Par la même occasion, le gouverneur du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance et à faire confiance aux FARDC. On écoute le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité.
Toujours à propos des affrontements qui s'intensifient entre les FARDC et la rébellion du M23, intervenant dans l'émission Dialogue entre Congolais de lundi dernier, présentée par Kéline Kouté, le général Chavana, commandant adjoint des forces de la MONUSCO, a rappelé que les bases de la MONUSCO ont été attaquées par le M23 avec une panoplie des moyens. Il a dit qu'il s'agit d'équipements militaires modernes. On écoute le général Chavana donner des précisions sur cet équipement dans cet extrait choisi par Guy Matetsongo.
des bases de la MONUSCO ont été attaquées avec une panoplie de moyens qui vont des petits moyens calibres de munitions, les mortiers, des roquettes RPG, et tout cela appuyé également par des appareils de vision nocturne qui ont permis au M23 d'agir également à la tombée de la nuit, ce qui montre le niveau d'équipement du M23 qui est évidemment soutenu et qui dispose d'équipements qui ne sont pas que des équipements rudimentaires. Donc la MONUSCO a été attaquée sur ses bases, a donc réagi et a fait usage de ses armes, de la panoplie complète de ses armes, en coordination avec la FRDC. Ces armes vont depuis les armes légères jusqu'aux mortiers également, l'artillerie et les hélicoptères d'attaque.
Et à Nairobi, pendant ce temps, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs condamne les actions militaires répétées du M23 contre les FARDC et contre les casques bleus de la MONUSCO. Dans un communiqué officiel rendu public hier, Wang Xia exprime sa solidarité aux populations de l'Est de la RDC, victimes de cette insécurité causée par les groupes armés. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit préoccupé par l'augmentation des activités des groupes armés dans l'Est de la RDC. Les membres de cet organe ont exprimé leurs préoccupations dans une déclaration devant la presse hier. Ils ont en même temps reconnu les efforts des FARDC, y compris le soutien de la MONUSCO, pour faire face à la menace posée par ces groupes armés. D'autres détails avec Honoré Missenga Kalala.
Le message du Conseil de sécurité porte sur la situation en République démocratique du Congo. Dans leur déclaration à la presse, les membres de l'exécutif de l'ONU condamnent fermement l'attaque du M23 contre les positions de la MONUSCO et des FARDC. Une attaque perpétrée le 22 mai 2022 dans la région de Changi au Nord Kivu. Concernant les attaques délibérées visant particulièrement les soldats de l'ONU, le Conseil de sécurité appelle les autorités de la RDC à mener rapidement des enquêtes en vue de traduire en justice leurs auteurs. Dans cette même déclaration, les 15 du Conseil de sécurité expriment également leurs préoccupations face à la situation humanitaire actuelle dans l'est de la RDC. Situation marquée par une augmentation significative du nombre de personnes ayant besoin de protection et d'assistance humanitaire. Toutefois, les membres du Conseil de sécurité se félicitent de l'engagement des signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à faire face à la menace que représentent tous les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo.
Entre-temps, en Ituri, les notables des différentes communautés lancent un appel aux groupes armés réfractaires au processus de Nairobi au Kenya à saisir cette opportunité pour la restauration de la paix dans l'Ituri. Ils déplorent les violences qui continuent d'être perpétrées, notamment par les différentes factions de la CODECO et le groupe d'autodéfense Zaïre dans le territoire de Djougou. Ces notables demandent aux leaders de ces milices de revenir à la raison. Isaac Remoyope nous en parle.
Les leaders communautaires se disent préoccupés par les violences commises par les groupes armés, notamment la CODECO et Zaïre, dans les territoires de Djougou. Ils les exhortent à saisir cette occasion offerte par les chefs de l'État congolais pour exprimer leurs revendications plutôt que de poursuivre la guerre qui ne profite pas au peuple de l'Ituri. Vital Tungulo de la communauté Nyalikilo.
L'Ituri et surtout le territoire de Djougou a vraiment besoin de la paix pour son émergence. Nous exhortons vraiment tous ces leaders armés de saisir cette main tendue du chef de l'État. En tout cas, on ne sait pas qui gagnera quelque chose dans tout ce que nous sommes en train de vivre.
Le vice-président de l'ORI indique que les leaders de la communauté Lendu Severti a persuadé les miliciens de la CODECO à participer aux consultations de Nairobi au Kenya. Il s'est dit confiant pour la suite de ce processus. Jean-Marie Ndiaza.
Je suis en train de conduire une délégation composée de 14 personnes que nous avons disséminées. Nous sentons que les gens sont dans le besoin de voir la guerre se terminer. Et donc, nous les encourageons à pouvoir l'État à ceux-là qui ont déjà accepté de participer.
De son côté, le porte-parole agent de l'IRDPC CODECO affirme que leurs factions sont favorables aux consultations de Nairobi. Il ajoute qu'ils étaient prêts à rejoindre Bounia la semaine dernière, mais ajoute-t-il, je cite, nous avons été attaqués par la milice Zaïre. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Du côté du Sud Kivu, 10 ans de servitude pénale et 10 ans pour terrorisme, c'est le verdict rendu ce mercredi à Calais Centre, 60 km de Bukavu, à l'issue de l'audience en chambre foraine de la Cour militaire du Sud Kivu sur 5 prévenus dans les dossiers prioritaires à Makombo et Bukanga en matière répressive au degré d'appel. C'est pour crimes contre l'humanité par meurtre, viol, torture et autres actes inhumains et dégradants. Ces audiences sont organisées avec l'appui de la section l'action d'appui à la justice de la MONUSCO, le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, l'ONG Trial et la fondation Panzi. Rachel Kiesse, reportage.
5 prévenus étaient poursuivis dans 2 affaires judiciaires. Le premier concernait les prévenus Chabira Chirabissa et Dieme Mounono. Le second dossier concernait les prévenus Bital et Léonard, Assifioué, Jean des Dieux et Doudoundoto. Tous des miliciens poursuivis pour crimes contre l'humanité par meurtre, torture et pillage. Faits commis entre 2016 et 2018. La Cour militaire du Sud Kivu a condamné les 2 premiers prévenus à 10 ans et 8 ans de servitude pénale principale pour crimes contre l'humanité. Les 3 autres prévenus sont tous condamnés à 10 ans pour terrorisme. Ils ont été condamnés en outre au paiement des frais d'instance et autres dommages-intérêts. Pour le lieutenant-colonel magistrat David Kazadi Nzengu, substitut de l'auditeur militaire supérieur du Sud Kivu, c'est un signal fort et un message que la justice militaire adresse à tous les seigneurs des guerres dissimulés à travers le pays et qui continuent à perpétrer des exactions sur la paisible population civile, que tôt ou tard, ils répondront de leurs actes criminels. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Direction le sud Ubangi. Plénière houleuse ce mardi à Gemena, où les députés provinciaux ont voté une motion d'information et exigé le départ du directeur provincial de l'EPST sud Ubangi 1. Il accuse de détournement d'environ 30 000 dollars alloués par l'UNICEF en 2018 pour la reproduction des manuels scolaires. La motion a divisé les députés. La majorité a voté dans la précipitation sans preuve. Des accusations rejetées en bloc par le concerné qui parle d'acharnement politicien contre lui. Le point avec Paul Richard Malengela.
Après vote de la motion d'information initiée par le député provincial Saïsaï, la plénière de ce mardi a recommandé au gouverneur du Sud Ubangi le renvoi immédiat du proviseur de Kabasele de la province, ce pour détournement de fonds publics. Cependant, quelques temps après, certains députés ayant approché l'incriminé vont témoigner de son innocence. Le président de l'organe délibérant, Nolo Milonga Nakodo.
Hier, on aura que Chibokilou m'a appelé pour venir que l'initiateur de cette motion d'information, il a induit le député en erreur, puisque le proviseur à tous les sous-bassements qui prouvent que j'ai innocent.
Le directeur provincial de l'EPST Sud Ubangi 1 incriminé a réaffirmé son innocence. M. Kabasele a plutôt dénoncé la mauvaise foi des députés provinciaux du Sud Ubangi.
Nous ne pouvons pas rembourser parce que l'argent avait été bel et bien déposé au niveau de l'imprimerie. Et ce n'est pas normal que le député, sans me demander de quoi il s'agissait directement, il passe à la radio, il commence à me traiter de voleur et à dire que je ne suis personne non grata.
Enfin, le directeur de l'imprimerie Isidore Bakanja Ambandaka a aussi dédouané le prophète, l'abbé chancelier Guy Roger Bokole.
Je tiens à confirmer que l'argent a été bel et bien versé dans les comptes de l'imprimerie. Nous avons reprographié les livres et quand on les a cheminés, il y a eu cet accident. Pendant que nous avons commencé à reprographier, l'UNICEF veut qu'on puisse rembourser l'argent. L'imprimerie est dans les processus de remboursement. Il ne s'agit pas d'un détournement de la part du prophète de Kabasele.
Bon, d'accord, pour Chumanegui, la radio Okapi.
Rendons-nous dans le Bas-Ouélé. Les prix des produits manufacturés et des produits alimentaires ont augmenté sensiblement de prix sur le marché de la ville de Bouta. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, attribue cette situation à la dégradation des routes. Certaines personnes y voient l'ombre d'une démographie galopante dans cette entité. Explication Jacques Moukonkolé.
Les habitants de la ville de Bouta sont confrontés ces derniers temps à une hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires ainsi que ceux de première nécessité. D'après la société civile locale, la plupart ont pratiquement doublé. Par exemple, un gobelet du sel est passé de 800 à 1600 francs congolais. Un kilo d'oignon revient actuellement à 7000 francs au lieu de 3000 francs antérieurement. L'huile de palme et du savon ne sont pas demeurés en reste. Une bouteille d'huile est passée de 800 à 2500 francs, voire 3000 francs congolais, alors qu'un gobelet de riz blanc se vend à 1600 au lieu de 500 francs congolais. Une barre de savon Tembo est passée de 800 à 2500 francs, tandis qu'un carton de boîte de tomates revient à 60 000 francs au lieu de 35 000 francs congolais. Paul Ebouda, président de la FEC Bouta, attribue cette flambée de prix à la dégradation très avancée des axes routiers Bouta-Kisangani et Bouta-Aketi. Pour que les prix baissent sur le marché, les opérateurs économiques de Bouta demande notamment au gouvernement de s'impliquer pour la réhabilitation de la RN4, le tronçon reliant Bouta à Kisangani et à Aketi. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes au Burkina Faso. Après 39 jours de recherche intensive, les secouristes ont retrouvé les corps sans vie de 4 des 8 mineurs coincés à des centaines de mètres sous terre dans une mine de zinc du Burkina Faso, a annoncé mercredi le gouvernement burkinabé. Les corps retrouvés n'ont pas encore été identifiés. Ils étaient recherchés depuis le 16 avril dernier suite à une inondation dans la mine de zinc de Perkoa. Le pompage de l'eau était devenu très difficile à cause de la boue et des blocs de pierre, selon les sauveteurs. 21 personnes ont été tuées, dont 19 enfants et 2 adultes. C'était lors d'une fusillade qui a endeuillé mardi une école primaire du Texas aux États-Unis d'Amérique. Le suspect est un jeune de 18 ans, a déclaré le gouverneur républicain du Texas lors d'une conférence de presse. Plus d'une douzaine d'élèves sont encore hospitalisés. Le tireur, lui, identifié comme Salvador Ramos, est décédé dans cette tuerie.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le docteur Paulin Kaloumé, médecin traitant dans le service de gynécologie obstétrique, cellule de fistule, à l'hôpital général de référence de Kindu dans le Maniema. Après une formation financée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à Pandi, cette équipe de 5 personnes assure localement la réparation des fistules obstétricales simples à l'hôpital général de référence de Kindu. Toutefois, l'équipe a besoin d'une formation continue pour arriver à réparer les cas compliqués. C'est ce que dit le docteur Paulin Kaloumé dans cet entretien avec Florence Kizalunga.
Bonjour docteur Paulin Kaloumé.
Bonjour madame.
Il y a un bon moment que l'hôpital général de référence de Kindu, avec l'appui de UNFPA, prend en charge la réparation des femmes fistuleuses. Quel est l'état de lieu séjour de cette maladie en province?
Oui, merci madame. Ça fait longtemps que l'hôpital général est en train d'organiser ses activités, mais au départ c'était les activités à masse. Il était question pour l'hôpital général d'appeler l'équipe d'experts venant de l'extérieur pour venir réparer en mode campagne. Mais à un certain moment, les partenaires de l'UNFPA s'est dit, au lieu de continuer à appeler l'équipe de réparation provenant d'une autre province, c'est mieux d'organiser une formation ou d'envoyer une équipe locale de l'hôpital général qui pourra désormais faire ses activités en mode routine. C'est comme ça que, à partir de l'année 2019, il y avait une équipe qui était envoyé à Pans, constitué de 2 médecins et 2 infirmiers ainsi que d'une anesthésiste. Donc, à partir de 2019, l'équipe était déjà complète pour commencer à réparer localement sans aide des experts venant de l'extérieur.
De 2018, docteur, peut-on avoir quelques chiffres concrets de malades que vous avez déjà réparés localement?
Oui, depuis qu'on a commencé à réaliser ces activités en mode routine, où on a réparé en 2020 20 cas, en 2021 50 cas et la prévision de cette année en cours est de 60 cas.
Et comment est la politique de prise en charge de ces malades?
La politique de la prise en charge de ces malades, ce qui est vrai, ce sont les malades qui sont un peu frustrés, stigmatisés, qui ont peur de consulter et ils ont honte de consulter les centres de traitement. C'est comme ça que pour les avoir, il faut commencer d'abord par une sensibilisation et leur montrer que c'est une maladie qui est curable, une maladie qui peut être soignée normalement et leur donner l'espoir que la maladie peut aussi se réparer sans rien donner. Nous leur assurons que non, la pathologie est là et nous sommes en mesure de réparer et facilement elles peuvent retrouver leur santé.
Qu'en est-il des ressources humaines? Pensez-vous que l'équipe de 5 personnes suffit ou vous avez besoin d'ajout? Aussi, ajout en termes de matériel pour une bonne prise en charge des malades?
Oui, depuis qu'on est là, nous faisons l'essentiel, mais cela ne va pas nous empêcher d'avoir une autre main plus forte que nous. Parce que notre formation s'est arrêtée à Bukavu, juste à la réparation des fistules obstétricales simples. Cela ne va pas nous empêcher de continuer avec notre formation pour commencer à faire même des cas très compliqués. Ce que nous faisons, bien sûr, c'est mieux déjà parce que nous faisons l'essentiel. Nous sauvons nos malades, nous réparons les fistules simples, mais pour les fistules compliquées, on doit quand même renforcer notre formation. Pour ce qui concerne les matériels, l'UNFPA nous avait déjà approvisionné l'essentiel en matériel. Ils peuvent toutefois ajouter, entre autres, les lits de réparation des fistules que l'hôpital tout entier en manque.
Vous avez toujours dit qu'il y a beaucoup de cas de fistules au Maniema, mais qui sont à l'intérieur de la province. Comment comptez-vous faire pour récupérer toutes ces femmes?
pour parvenir à voir les patientes à opérer ou les patientes souffrantes des fistules, il faut aller les chercher avec des sensibilisations. Dans notre plaidoyer, on s'était dit, est-ce qu'il sera possible d'organiser des cliniques mobiles? D'ailleurs, c'est ça notre prévision pour cette année. On pensait proposer ça aux partenaires, s'il y aura moyen d'aller commencer à chercher ces femmes qui sont là à l'intérieur isolées, qui ont difficile à nous atteindre, qui ont des difficultés pour arriver au lieu des centres de traitement. Maintenant, comme moyen pour nous de les atteindre, c'est mieux d'organiser des cliniques mobiles.
Pour terminer, docteur, quelques conseils en titre de prévention.
Dans le cas d'espèce, comme nous parlons de la fistule obstétricale, c'est en général une maladie qui est due d'abord à une mauvaise obstétrique. Ça veut dire que pour prévenir ou pour lutter contre cette pathologie, les femmes doivent subir une bonne obstétrique. Ça veut dire faire les consultations prénatales. À part la bonne consultation prénatale, les femmes doivent aussi apprendre à arriver à temps à l'hôpital et aussi au personnel soignant savoir diagnostiquer s'il y a des dystocies afin d'éviter la survenue d'une fistule obstétricale.
Docteur Paulin Kaloumé, merci.
Merci, madame.
Notre invité, médecin gynécologue obstétricien au sein de l'hôpital général de référence de Kindu, répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Irungu-Shinge, Élisée Chikotati vous est à la coordonnée et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.